franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
L'état des sols à la une de la science aujourd'hui, puisqu'en ce moment même, à Medellín en Colombie, 750 experts du monde entier sont réunis pour parler de l'avenir de la biodiversité à l'occasion du forum international de l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Et ce rapport international qui va être remis à l'occasion de ce forum et qui juge critique l'état des sols à l'échelle de la planète, érosion, déforestation, pollution. L'homme est en train de consommer trop vite cette ressource qui a pourtant évidemment et qui continue de nourrir l'humanité. Axel, on en parle avec nos invités.
Oui Mathieu, nous sommes avec Hervé Kempf pour Reporter, comme tous les lundis. Bonjour Hervé.
Bonjour Axel.
Et avec Dominique Arways par téléphone. Bonjour.
Bonjour Axel et Hervé.
Vous êtes ingénieur de recherche à l'INRA d'Orléans dans l'unité InfoSol. Alors en 3 ans, c'est le 2e rapport international concernant les sols avec celui de la FAO en 2015. Et les deux sont très inquiétants. Alors quelles sont vraiment les menaces qui pèsent sur les sols à l'échelle du globe ?
Alors à l'échelle du globe, les principales menaces qui pèsent sur les sols sont d'une part l'érosion, qui affecte une énorme partie du territoire. La deuxième menace, je dirais que c'est l'artificialisation, la bétonisation en fait, hein, l'imperméabilisation des sols. Et puis après, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a le déséquilibre en éléments nutritifs qui touche principalement l'Afrique subsaharienne. Il y a la baisse en teneur en matière organique, il y a la salinisation qui touche principalement les pays arides et méditerranéens, et une baisse éventuelle de la biodiversité. Puis enfin, pour les pays du Nord, il y a aussi le problème de l'acidification. Donc il y a, je dirais, énormément de menaces finalement sur ce patrimoine que sont les sols mondiaux.
Hervé Kempf. En même temps, on a l'impression que cette notion de dégradation des sols est un petit peu fourre-tout. Est-ce qu'il y aurait une sorte d'indicateur qui permettrait de mesurer de manière synthétique cette évolution dans un sens négatif ?
Un premier indicateur, c'est la perte en sol, qu'on peut calculer par modélisation principalement.
Ça veut dire quoi la perte en sol exactement ?
La perte en sol par érosion. C'est-à-dire, par exemple, on estime qu'actuellement, ce sont... environ 24 milliards de tonnes de sols qui disparaissent chaque année sous l'effet de l'érosion, c'est-à-dire qui partent dans nos deltas, dans nos rivières, dans les océans.
24 milliards, ça paraît un chiffre énorme. C'est rapporté à quel
par habitant, ouais.
C'est rapporté à quelle quantité ou volume de sol total?
Là, il faudrait que je fasse le calcul de tête, ça va pas être facile.
Non, on va pas faire le calcul de tête en direct.
Il y a 13 milliards d'hectares, si vous mettez un hectare à 3000 tonnes, voilà. Disons que vous perdez finalement, j'essaye de faire le calcul de tête.
Non, mais abandonnez.
Une quantité colossale.
Vous en perdez beaucoup, vous en perdez 3,4 par habitant.
On peut parler d'êtres humains parce que le rapport de l'IPBES remis à Medellín aujourd'hui parle de 3 à 4 milliards d'êtres humains dont le bien-être est mis en jeu par la dégradation de ces sols.
Oui.
C'est quoi les risques ?
Le premier risque, c'est l'insécurité alimentaire. Hein, le premier risque, c'est que les sols soient tellement dégradés qu'on n'arrive plus à produire suffisamment de nourriture. Donc c'est le cas en particulier de l'Afrique subsaharienne. Donc ça, pour moi, c'est ça le premier risque.
Dominique Arways, pour parler de l'érosion justement, le phénomène, il augmente pour quelles raisons exactement ? Il est lié à la déforestation uniquement ?
Alors il peut être lié à la déforestation bien entendu, il est lié aussi à certaines mauvaises pratiques agricoles, le fait de laisser le sol nu par exemple, de ne pas le couvrir en permanence. Il peut aussi être lié à une augmentation des événements climatiques extrêmes, en particulier les orages ou les pluies très intenses qui sont liées au changement climatique.
Malheureusement, on peut faire des liens entre les différentes catastrophes du moment, celle de la 6e extinction, celle du réchauffement climatique, celle de la dégradation des sols. On imagine bien que tout ça est très lié.
Tout ça est extrêmement lié. Je dirais même que quelque part, c'est les sols qui sont au centre de tout ça. La sécurité des sols, en fait, est en lien avec la sécurité alimentaire et est en lien avec également la qualité de nos eaux et la quantité de nos eaux, avec le changement climatique, avec la protection de la biodiversité, c'est le sujet du rapport qui sort aujourd'hui, et puis également avec les énergies renouvelables et puis tout un tas d'autres services écosystémiques. Finalement, on a un peu oublié que le sol était au centre de tous ces grands enjeux mondiaux.
Hervé Kempf.
En fait, ça menace, vous l'avez dit, particulièrement la sécurité alimentaire. Est-ce que le mouvement de progression de la production agricole mondiale et de productivité agricole vous paraît devoir s'interrompre, voire régresser ?
Je ne comprends pas vraiment la question.
Compte tenu du fait qu'il y a cette dégradation du sol que vous décrivez très bien, est-ce que le mouvement d'augmentation de la productivité agricole et de la production agricole mondiale va pouvoir continuer ou est-ce que ça va s'interrompre ?
Ce qu'on sait, c'est qu'il est plutôt en train de stagner. Et que les bonnes solutions, elles vont passer soit par de la sélection de plantes qui seront, je dirais, plus frugales, qui produiront avec moins d'intrants, soit par une meilleure gestion des sols, et à mon avis, les deux.
Quand on parle de l'urgence climatique, on a une espèce d'ultimatum, on dit qu'il ne faut pas dépasser 2 degrés en 2100. Est-ce qu'il existe une forme d'ultimatum pour la dégradation des sols ?
Ben moi, je mettrais un premier ultimatum qui serait d'arrêter l'extension de l'artificialisation et de l'imperméabilisation.
Ça veut dire quoi ? Ne plus construire.
On va dans le mur. Si on continue à construire sur les terres agricoles, et c'est ce qu'on fait, la plupart des urbanisations et des extensions urbaines se font sur des terres agricoles, on perd un potentiel, on perd un patrimoine énorme. Donc, à mon avis, la première alerte, c'est de gérer ça, c'est-à-dire d'essayer qu'il y ait du zéro net artificialisation, ou du moins de la contrôler.
Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire quelle proportion des sols de la planète est épargnée par l'impact humain ?
Épargnée ?
Oui, épargnée.
Ça dépend ce que vous appelez épargnée par l'impact humain. Parce qu'en fait, l'impact humain, il est présent partout, puisque, par exemple, le changement climatique est présent partout. Je dirais que les zones les moins touchées directement par l'activité humaine, on peut considérer que ce sont les forêts, les zones dites naturelles, donc ça représente 4 milliards d'hectares sur 13 milliards.
Le rapport parle de 10% en 2050 qui serait encore épargné. Hervé Kempf.
Il y a cette évolution très négative, il y a en même temps la mesure que vous dites arrêter l'artificialisation. Est-ce qu'il y a aussi des moyens de réparer les sols, de les guérir, de faire des restaurations de sols ?
La résilience du sol, c'est un terme qui est employé.
Oui, il y a moyen de faire ça. Disons que les sols sont pas morts, quoi, la plupart du temps. Bon, quand ils sont sous le béton, c'est quand même très très difficile et extrêmement coûteux de les réhabiliter. Mais par contre, un sol qui est en train de s'éroder ou qui a perdu sa matière organique ou qui s'acidifie, il y a moyen de le gérer. Je veux dire, on sait le faire. C'est un problème simplement de moyens. C'est un problème de mettre en place une gestion qui soit viable économiquement. Je vais vous prendre l'exemple, par exemple, des sols d'Afrique subsaharienne. Il y a un problème général qui est qu'ils sont de toute façon en train de s'appauvrir parce que l'agriculteur, le petit agriculteur africain moyen n'a pas les moyens de ramener finalement les nutriments qu'il exporte avec ses récoltes. Donc on est dans une espèce de spirale de la pauvreté, c'est-à-dire que le sol s'appauvrit en permanence. Si on arrive à gérer ça, je veux dire, si on arrive à avoir une couverture végétale permanente, si on arrive à apporter le peu d'éléments qu'il faut pour que la production soit suffisante, on va progressivement, réhabiliter le sol. Oui, on sait faire ça.
En tout cas, il y a urgence, visiblement, autour des sols de la planète. Et c'est ce que dit ce rapport international qui vient d'être remis donc aujourd'hui ou en ce moment même à Medellin, en Colombie, et qui est largement, abondamment commenté et qu'il sera dès demain également sur reporter.net, Hervé.
Absolument.
Et
la une d'aujourd'hui, eh bien, quelque part, ça fait écho à ce que l'on vient de dire. On publie la vidéo d'un spectacle titré « Écologie, maintenant, il faut se battre ». C'est des lectures très fortes par des comédiens et des comédiennes de textes de Paul Watson, de Vandana Shiva, d'Eric Johnson. Un sujet plus quotidien aussi, comment choisir sa voiture écolo quand vraiment on ne peut pas s'en passer. Et ça arrive, hélas.
Ah bon, et on peut en trouver surtout ?
Oui, en fait, la ruse, c'est quand même de faire du vélo et puis de chercher covoiturage, des voitures de location du prêt entre amis. Et puis, important aussi, la tribune d'un collectif d'avocats à propos des projets d'expulsion de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ce collectif d'avocats rappelle au gouvernement et au Premier ministre que quand on veut expulser les gens, il faut respecter des procédures juridiques.
Voilà, tout ça sur reporter.net. Dominique Arouez, merci beaucoup pour votre intervention. Et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le volcan Etna qui glisse chaque année, il parcourt 14 mm en allant vers la mer, soit 1,40 m par siècle à échelle humaine. Ce déplacement est notamment dû à un sol composé de sédiments mous. Une équipe de géologues de l'Open University étudie depuis plus de 50 ans maintenant le volcan. Après avoir positionné des GPS sensibles au millimètre près au mouvement de la montagne, eh bien les résultats montrent donc que l'Etna se déplace vers l'est-sud-est et prend le chemin de la ville de Djare. Si la situation n'a pour l'instant rien d'alarmant, le professeur Murray note que d'ici 10 ans, la vitesse de déplacement aura doublé, ce qui rendra un peu plus préoccupant ce phénomène. De minuscules capteurs à coller sur les dents pour mieux comprendre le lien entre notre alimentation et notre santé. Des carrés adhésifs plats de 2 mm de large ont été imaginés par des ingénieurs de l'université de Tufts aux États-Unis. Reliés à un appareil mobile, ils transmettent en temps réel des informations sur la consommation de glucose, de sel et d'alcool. Les couches successives de ces capteurs réagissent également aux différents nutriments en changeant de couleur. À terme, il pourrait détecter d'autres produits chimiques. Et puis une enquête sur la mort d'un dinosaure il y a 200 millions d'années qui trouve son dénouement. C'est le fossile d'un Lufengosaurus yenyei, découvert en 1997 en Chine, qui a permis d'ouvrir l'affaire. Une anomalie osseuse avait été détectée sur cet herbivore de 6 mètres de long et qui pesait un peu moins de 2 tonnes. Et bien aujourd'hui, après de longs mois d'enquête, des chercheurs de l'Université des géosciences de Chine ont fini par comprendre que cette déformation était due à une infection bactérienne survenue à la suite d'une méchante morsure. Un meurtre résolu, également la preuve d'une interaction entre les grands dinosaures mangeurs de plantes et leurs prédateurs agressifs.